Il est 8h30, merci d'écouter France Inter. Et c'est donc la revue de presse. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Comment donc réagir face au terrorisme ? Quels principes défendre ? Quelle méthode adopter ? Ce sont les questions que pose cette semaine l'hebdomadaire Le 1, dont les journalistes sont allés enquêter dans deux démocraties qui ont adopté des modèles très différents. C'est ainsi que Julien Bisson s'est rendu au Danemark, un pays où la police reste plutôt discrète, mais où la surveillance ne fait guère débat. Là-bas, les jeunes qui sont tentés par l'aventure djihadiste sont d'ailleurs repérés et pris en charge de manière efficace. Autre pays, autre région, un reportage de Manon Pollic en Israël. Manon Pollic en Israël, qui vit sur le pied de guerre depuis des années, depuis même tant d'années que la société israélienne a développé une véritable culture de la gestion de crise, avec la récente mise en place d'un traitement du stress post-traumatique inédit. Cela date de juin dernier, et c'est un ancien officier de l'armée qui a développé le procédé, une nouvelle façon d'apporter une aide psychologique aux témoins d'attentats, en s'adressant à eux de façon cognitive et non plus émotionnelle. En d'autres termes, consoler ou serrer dans ses bras le témoin d'une attaque terroriste est une attitude bienveillante, mais inefficace, car elle place la personne en position de passivité. Mieux vaut l'activer, lui poser des questions et puis lui assigner des tâches précises, comme par exemple aller chercher une couverture pour un blessé. Le but est de faire sentir au sujet qu'il est dans une position de contrôle et d'action. Comment donc réagir face au terrorisme ? Quels principes défendre ? Quelles méthodes adopter ? Tous les pays se posent aujourd'hui ces questions-là. Et ce matin, plus encore peut-être, les États-Unis où un attentat a donc eu lieu hier après-midi.
Et je vous le rappelle, c'est cette camionnette qui a foncé sur des passants à New York. Bilan, 8 morts, 11 blessés.
On vous en parle depuis ce matin sur notre antenne. Et le sujet fait bien sûr la une de tous les sites des journaux américains. Et puis la une aussi d'une partie de la presse française. Attaque à New York, titre insigne ce matin, précisant que le scénario rappelle celui de l'attentat de la promenade des Anglais comme celui de Barcelone. Une attaque au camion fait 8 morts, précise de son côté l'Union, tandis que le Figaro qualifie l'attaque en question une attaque terroriste. C'est Philippe Gély et Valérie Sanson qui font le déroulé du drame dans les pages du journal. Sous un beau soleil d'automne, en ce jour d'Halloween, New York a été frappé à son tour par une attaque au camion Bélier. Peu après 15 heures, le chauffeur d'un pick-up de location s'est engagé délibérément à contresens sur une piste cyclable, la remontant sur un kilomètre et fauchant une vingtaine de promeneurs et de cyclistes sur son passage. Puis après avoir percuté un car scolaire, l'assaillant est sorti du véhicule criant « Allah Akbar » au dire des témoins. Un officier de police aurait alors fait feu, blessant l'individu au ventre, suite à quoi il a été transporté à l'hôpital. Le bilan fait donc état de 8 morts, dont 5 vacanciers argentins. Une touriste belge. Il y a par ailleurs 11 blessés dans un état sérieux, mais cependant pas critique selon les pompiers. Plusieurs médias américains ont déjà livré l'identité du chauffeur de la camionnette. Il s'appelle Sefulo Sepov, il a 29 ans. Il est originaire d'Ouzbékistan. D'emblée, Donald Trump a mis en cause le groupe État islamique et ordonné le renforcement du contrôle des étrangers souhaitant entrer aux États-Unis. Des reportages et le point sur les avancées de l'enquête, évidemment, dans tous les journaux de France Inter aujourd'hui.
Il est 8h34, la suite de la revue de presse. On parle aussi de politique ce matin.
Mais oui, avec notamment des révélations, Nicolas, sur les tout derniers mois de la présidence de François Hollande. C'est à lire dans Le Parisien. Les derniers secrets de la Hollandie. Et c'est sur la base de deux livres que Nathalie Schuch a écrit son papier. Les livres de deux anciens conseillers de François Hollande, Gaspard Ganzer et Vincent Feltès. Ce dernier raconte notamment que tout était organisé pour une nouvelle candidature de l'ex-chef de l'État. Il avait même un slogan, François Hollande, « Nous sommes la France ». Et tous les deux rapportent que François Hollande était totalement sous l'emprise de Manuel Valls. Il semblait même en avoir peur, disent-ils. Gaspard Ganzer confirme par ailleurs que Brigitte Macron a bien voté pour Nicolas Sarkozy en 2002 comme en 2007. On apprend également qu'Alain Juppé a failli se voir proposer le Quai d'Orsay après les attentats de Paris. Et puis on découvre aussi que l'Élysée a tenté de faire en sorte que François Hollande décroche le prix Nobel de la paix en 2016 pour le récompenser de son action en Ukraine. Ceci aurait éventuellement permis de l'aider dans une éventuelle candidature. Toujours dans le Parisien, nouvelle affaire de harcèlement sexuel. Cette fois, c'est dans les médias. Anne-Sora Dubois, ancienne journaliste de France 2, vient de porter plainte contre Éric Monnier, l'actuel directeur de la rédaction de LCI. Elle l'accuse donc de harcèlement. Lui proteste de son innocence, mais certains se rappellent qu'en arrivant à LCI, il se présentait lui-même comme le DSK de France 2.
Cela dit, Frédéric, dans les journaux, on trouve aussi quelques raisons de se réjouir.
Se réjouir, par exemple, à la lecture du formidable reportage de Delphine Minoui. Dans les pages du Figaro, elle nous raconte l'histoire de jeunes activistes syriens qui tentent de braver la propagande des islamistes à travers la lecture. On est à Idlib, au nord-ouest du pays, dans une région prise en étau entre les bombardements russes et les djihadistes de l'ex-front al-Nosra. Et c'est donc dans cette région qu'un petit groupe d'opposants au régime de Bachar al-Assad circule depuis 3 mois dans un bibliobus qu'ils ont aménagé pour aller proposer des livres aux habitants. Il y a là des romans, des contes pour enfants, des manuels éducatifs, des ouvrages de sociologie et même des bouquins de développement personnel. Une dizaine de villages parcourus ces dernières semaines et des Syriens ravis de pouvoir parler d'autre chose que de la guerre ou de la religion. Et c'est donc la lecture pour oublier les bombes, mais aussi pour résister à ceux qui veulent imposer leur idéologie. Enfin, on peut se réjouir aussi avec Jérôme Garcin, le patron du service culture de l'Obs, qui cette semaine publie des extraits d'une correspondance amoureuse. Les lettres échangées par Albert Camus et Maria Cazares, qui paraîtront jeudi prochain. Un immense écrivain, une immense comédienne qui ont eu la chance de s'aimer à une époque où la passion ne s'exprimait pas encore à coups d'émoticônes envoyés par texto, mais bien de manière épistolaire. En l'occurrence, Gallimard publie 865 lettres qui scellent pour toujours, je cite Garcin, ses amants à la fois célèbres et clandestins. Clandestins, car lorsqu'ils se rencontrent, l'auteur de La Peste est marié. C'était le 6 juin 44, le jour de la libération. Mais leur histoire va pourtant durer des années, jusqu'à la mort de l'écrivain en janvier 1960. 15 années de mots d'amour. Et leurs lettres sont magnifiques. Maria Cazares appelle Camus son frère d'armes, son beau prince exilé, son vivant, son seigneur, son jeune homme aux yeux de lumière. Albert Camus appelle Cazares sa tragique, son unique, sa brillante, sa plage, sa belle furie, sa petite sainte brûlante ou encore sa truite noire. Et c'est très affectueux, truite noire, Nicolas, c'est comme quand je vous appelle. Mon saumon mordoré, quelques mots d'amour pour un peu oublier le reste.
Mais oui, mon sanglier. Merci Frédéric Pommier pour cette revue de presse.